protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.
Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui Marion Baillon. Marion est connue d'à peu près tous les protestants de Montpellier par sa maîtrise de la musique au temple rue de Maguelone. Elle est vice-présidente du secteur centre-ville de l'EPUMA, présidente de l'IPT au niveau national. Sa profession est chercheur en cancérologie au CNRS. D'où ma première question, Marion, vous dormez quand ?
Merci pour cette introduction, la question est drôle. Mais je dors quand même et je pense que c'est sans doute une question d'organisation.
Eh bien, bravo pour l'organisation parce que c'est quand même impressionnant. Alors, vous avez toujours eu un engagement protestant, je crois. C'est de famille. Vous êtes tombé dans le chaudron d'Obélix aussi, comme un certain nombre de protestants. Et vous avez été conseillère presbytérale très vite. Et puis?
Et j'ai été déléguée au synode régional et au synode national. Et j'ai été membre du conseil national lors du mandat qui a préparé l'Église protestante unie de France. Donc c'était en fait un travail à la fois enrichissant et exigeant entre réformés et luthériens pour préparer les textes cadres de l'Église unie avec la Constitution et le règlement d'application. Donc ça m'a appris beaucoup sur le fonctionnement de l'Église à tous les niveaux en fait.
Et les relations n'ont pas été la mise en place des textes pour trouver des accords, ça a été difficile ou assez facile finalement ? Comment ça s'est passé ?
Alors je dirais que ça s'est vraiment bien passé, mais c'était un travail vraiment exigeant et comment dire complexe pour tenir compte en fait de tout ce qui fait l'identité réformée et l'identité luthérienne.
Tout le monde est tombé d'accord à peu près à la fin.
Oui, tout à fait. Enfin, c'est un travail qui s'est fait dans une très bonne atmosphère et avec une très bonne volonté des deux côtés pour que ça se passe le mieux possible. Donc, en fait, je dirais que ça s'est vraiment très bien passé. Mais la difficulté, elle était plus au niveau du travail qui était considérable, en fait. Donc, c'était la quantité et la qualité de travail qu'il fallait réussir à mener. Mais, la collaboration s'est faite très très bien entre réformés et luthériens.
Et le plus gros du travail, c'était au sujet des doctrines ou au sujet de l'organisation plutôt ?
Ah, c'était global. C'était les deux. Ouais.
D'accord.
Parce qu'en fait, les textes cadres de l'Église protestante unie de France concernent tout cela.
Oui. Et les points de doctrine qui pouvaient poser problème, comme la définition de la scène chez les luthériens, qui n'est pas la même que chez les réformés, est-ce que finalement chacun s'est dit, on accepte une sorte de compromis, et puis chacun a sa conscience ou ça. Comment ça se passe pour les points qui sont un peu plus litigieux?
Je dirais qu'en fait, la diversité est reconnue, c'est-à-dire que l'Église protestante unie n'impose pas une compréhension de la scène.
D'accord.
Et les réformés comme les luthériens, je pense, peuvent tout à fait se sentir respectés par les textes.
C'est...
J'espère.
Je pense, puisque apparemment ça marche pas si mal que ça, donc c'est que c'était bien fait. Et puis on vous a demandé de prendre la présidence de l'IPT. Alors l'IPT, c'est l'Institut protestant de théologie. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer le fonctionnement global de l'IPT ? Parce qu'il y a Paris, il y a Montpellier, il y a un IPT, deux IPT, comment ça se passe ?
Oui, alors peut-être je peux juste commencer en disant pourquoi en fait on m'a demandé de me présenter à cette fonction, parce qu'en fait, le profil recherché, c'est à la fois une bonne connaissance du milieu universitaire et une bonne connaissance de l'Église. Alors après, le fonctionnement...
Il ne demandait pas la musique en plus.
Non.
C'était un plus.
Alors après, le fonctionnement, donc l'Institut protestant de théologie, ce sont deux facultés, comme vous l'avez dit, donc Paris et Montpellier. Et en fait... Au niveau de chaque faculté, il y a un doyen ou une doyenne. Donc à Paris, c'est Anna van den Kerkhoff et à Montpellier, c'est Christophe Singer.
Alors eux, c'est au niveau de l'enseignement, c'est au niveau...
Alors c'est à la fois au niveau de l'enseignement, mais c'est aussi la direction de chaque faculté au quotidien et le suivi de chaque faculté au quotidien. Alors qu'en fait, la présidence, donc qui est une fonction qui concerne à la fois Paris et Montpellier, là, c'est, je dirais, davantage un rôle de lien entre l'IPT et l'Église protestante unie de France, et aussi un lien avec le monde universitaire public et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Et alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette IPT? Bon, c'est une fac. Donc, on forme les pasteurs, mais on ne fait pas que ça.
Tout à fait. Donc, l'IPT joue un rôle majeur dans la formation des futurs ministres de l'EPUDF, mais l'IPT propose une formation à un public beaucoup plus large, en fait. Et l'IPT accompagne la réflexion théologique de l'ensemble des membres de l'Église et propose vraiment une formation théologique, je dirais, au service de tous.
Et comment on peut, si on est intéressé, on peut s'inscrire, on peut téléphoner et puis demander des renseignements. Là, on aura des renseignements, la porte est ouverte ou...
Oui, bien entendu, la porte est ouverte. Donc, il y a un certain nombre de renseignements sur le site internet de l'IPT. Et puis, bien sûr, au niveau des secrétariats des deux facultés. Et puis, il y a en fait aussi beaucoup d'interventions des enseignants de l'IPT dans un cadre hors IPT, donc notamment au niveau de paroisse et au niveau de synode, etc. Et puis dans le cadre de conférences, de cours publics. Donc par exemple, le cours public à la faculté de Montpellier a lieu au premier trimestre tous les jeudis à 18h et c'est ouvert à tous les publics.
Donc pour nos auditeurs, ils peuvent venir si ça les intéresse. À l'IPT de Montpellier, qui est l'adresse, c'est
13 rue du docteur Louis Perrier à Montpellier.
Voilà. Donc, nos auditeurs peuvent s'y rendre. Je pense qu'il faut peut-être s'inscrire avant, non?
Alors, il est souhaitable de s'inscrire au cours public, mais en pratique, il est tout à fait possible aussi de venir sans s'être inscrit.
Et les conférences qui sont données sont au niveau, peuvent intéresser tout le monde?
Bien sûr, elles peuvent intéresser tout le monde. Elles s'adressent à tous les publics et pas uniquement à un public de spécialistes. Oui, tout à fait. Et il y a aussi des personnes d'origine très différentes qui viennent au cours public. Il n'y a pas que des protestants de Montpellier, mais il y a aussi des personnes athées, des personnes catholiques. C'est un public très varié.
Donc, à nos auditeurs, allez voir ce qu'on fait à l'IPT, allez voir ses conférences. Ça peut être très intéressant. Et vous faites des publications aussi.
Oui, alors l'IPT produit plusieurs publications, alors de différentes sortes. Donc, il y a la revue Études théologiques et religieuses, ETR, qui est davantage destinée à un public universitaire. Mais il y a aussi la collection À voix haute, qui est publiée aux éditions Olivetan et qui est accessible à un public non spécialiste et qui regroupe notamment des interventions de type cours public, conférences, etc. Il y a aussi la collection Théologie au pluriel, qui regroupe aussi des interventions soit d'invités à l'IPT, soit d'enseignants-chercheurs de l'IPT.
Alors ça, on peut se les procurer auprès de l'IPT, on peut s'abonner, on peut se...
Oui, tout à fait. Les informations sont aussi sur le site internet.
Eh bien, j'invite nos auditeurs à regarder le site internet et voir s'il y a des publications qui pourraient les intéresser. Alors, on a parlé de Paris, on a parlé de Montpellier. Alors là, on parle beaucoup de l'IPT, on parle pas encore beaucoup de vous, mais on va y venir. Hein. Mais là, donc, je reviens à Paris, Montpellier, et puis il y a la fac de Strasbourg aussi. La fac de Strasbourg, elle est publique, puisque c'est le Concordat. Et comment ça se passe, vos relations entre l'IPT, qui est un organisme privé, et Strasbourg, qui est public?
Alors, il y a de bonnes relations entre les deux établissements et il y a une convention pour la reconnaissance réciproque du diplôme de niveau licence. Et il y a un vrai travail, je dirais, collaboratif, puisque le doyen de l'Université de Strasbourg fait partie du conseil de l'IPT Donc il y a différents liens.
D'accord. Et puis avec la fac des lettres de Montpellier, qui est Paul Valéry, comment ça se passe
Alors il y a également une convention bilatérale avec l'université Paul Valéry et la possibilité de doctorat à double saut et aussi au quotidien l'accès réciproque aux bibliothèques, la possibilité aux étudiants de suivre des enseignements dans les deux universités. Voilà, c'est un accord bilatéral.
D'accord. Et les diplômes sont reconnus, les diplômes délivrés par l'IPT sont reconnus par Paul Valéry ou certaines équivalences
Oui, des équivalences sont possibles.
D'accord. Alors maintenant, on va en venir un petit peu au rôle du président de l'IPT, c'est donc vous. Alors vous dites sur le site de l'IPT que votre rôle n'est pas de diriger, mais de présider. Alors ma première question... C'est est-ce que ça ressemble à la fonction de chef d'orchestre ? Je suis toujours dans la musique, mais parce que vous êtes pianiste, mais en président, est-ce que vous êtes comme un chef d'orchestre ? Enfin, j'y connais rien en musique, c'est pour ça que je pose une question complètement naïve et peut-être complètement idiote. Il ne faut pas avoir peur de me le dire.
Non, c'est pas une question idiote du tout. Après, je ne sais pas trop si l'analogie avec le chef d'orchestre est Et bonne, ça me paraît difficile de répondre à la question, mais
bon,
dans la
on
pratique,
va laisser tomber le chef d'orchestre.
Non, mais c'est très intéressant. comme je disais tout à l'heure, en fait, ça n'est pas la direction de l'IPT, puisque la direction, c'est le doyen ou la doyenne qui dirige sa faculté.
Oui.
Et la présidence, ça regroupe en fait les deux facultés d'une certaine manière. Donc il y a cette idée de lien, donc peut-être un petit peu de chef d'orchestre, je ne sais pas. Et puis de lien avec différents acteurs, parce qu'il y a aussi le lien avec l'Église protestante unie de France, et puis aussi avec les universités publiques dont nous avons parlé avant, et puis avec le ministère.
Oui, donc effectivement, là, l'analogie avec le chef d'orchestre n'est pas bonne parce que vous ne vous contentez pas de présider l'IPT. Ce qui est important aussi, c'est les liens avec l'extérieur.
Oui.
Et ça, c'est très important avec l'Église, avec l'extérieur, avec le ministère, donc ministère de l'enseignement supérieur.
Oui, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Ouais.
Qui a conféré à l'IPT le statut d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. Donc, c'est ESPIG en abrégé. Et donc, c'est une reconnaissance. En fait, c'est important de se rendre compte que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche reconnaît l'IPT comme un établissement d'intérêt général. Et cette reconnaissance, elle est importante aussi en termes de rayonnement, en termes de recrutement des étudiants, parce que l'IPT figure sur Parcoursup.
Oui,
grâce à ce label
du
ministère. Et puis, le ministère accorde une subvention de fonctionnement à l'IPT.
D'accord. Alors, vous avez fait remarquer le lien entre l'IPT et l'Église, qui est un lien relativement normal. Enfin, c'est tout à fait évident. Et alors, vous avez aussi rejoint le conseil de secteur de centre-ville de Montpellier. Est-ce que c'est un peu... le fait d'être à l'IPT ou c'est le contraire ? Est-ce que vous êtes passé du centre-ville à l'IPT ou l'inverse ?
Alors, je dirais que c'est un petit peu différent parce que le conseil de secteur, c'est la vie en fait du secteur centre-ville, dans mon cas, dans la paroisse. Donc en fait, la paroisse de Montpellier, elle est étendue au plan géographique et elle comporte 4 secteurs distincts. Géographiquement, dont le secteur centre-ville. Et il se trouve que j'étais déjà vice-présidente du conseil de secteur centre-ville avant d'être à la présidence de l'IPT. Mais en fait, c'est deux choses différentes, même si ce sont deux engagements, bien sûr, qui ont un lien avec l'Église.
D'accord. Oui, non, je voulais vous demander si c'était parce qu'il vous restait trop de temps libre et que quelque part vous ennuyiez, mais bon, non, j'étais à côté de la plaque. Alors donc, dans ce conseil de secteur, vous avez dit, on gère le quotidien par rapport au conseil presbytéral, parce que il y a un conseil presbytéral. Moi, je viens de paroisse plus petite. J'ai toujours entendu parler de conseil du conseil presbytéral. Par contre, les conseils de secteur, je connaissais pas trop. Alors, est-ce que vous pouvez définir la différence avec le conseil presbytéral ?
Oui, bien sûr. Donc, le conseil presbytéral, c'est l'instance majeure de gouvernement dans chaque paroisse. Donc, c'est lui qui porte les responsabilités, qui prend les décisions, qui est responsable devant l'Assemblée générale de la paroisse. Donc, c'est lui l'organe majeur. Mais dans le cas d'une paroisse étendue comme celle de Montpellier, et qui fonctionne avec quatre secteurs, c'est important aussi qu'il y ait une équipe de personnes qui gère la vie du secteur et la dynamique, en fait, d'une certaine manière, du secteur, tout en étant en lien avec le conseil presbytéral qui prend les décisions majeures pour le fonctionnement de la paroisse.
D'accord. Et vous êtes nommé comment au centre-ville ? Pareil, par l'Assemblée générale ou c'est le secteur de centre-ville ou les autres secteurs d'ailleurs, ça se passe comment ?
Oui, alors en fait, ça se discute au niveau des assemblées de secteurs. Mais d'accord. Après, c'est un fonctionnement qui est, je dirais, plus souple et moins formel que le conseil presbytéral et les élections pour le conseil presbytéral oui. qui ont lieu à l'assemblée générale de la paroisse. C'est... Là, c'est quelque chose de beaucoup plus souple et ouais. d'une certaine manière informel parce que le conseil de secteur n'est pas décrit.
C'est pas une association loi 1905.
Alors non, parce qu'en fait, c'est dans le cas de Montpellier, l'association loi 1905, c'est l'association cultuelle oui. ouais, de l'Église protestante unie de Montpellier et alentour.
Ouais.
Donc dans son intitulé, il y a cette idée de territoire géographique étendu.
Ouais.
Et ensuite, le conseil de secteur, c'est simplement une structure informelle
d'accord.
qui s'occupe de la vie du secteur un peu au quotidien.
D'accord. Alors, on a vu pas mal de choses au niveau des fonctionnements administratifs et de différentes organisations. Donc, on va faire une pause musicale. Alors, vous nous avez choisi Chopin, l'impromptu numéro 2 en F sharp. F, c'est quoi ?
Fa dièse. F sharp, oui, fa dièse majeur.
Voilà. C'est l'opuscule 36. Alors, on va écouter ce morceau. retrouve Marion Baillon et on a beaucoup évoqué votre travail à l'Église et on vous félicite pour cet engagement multiple. Maintenant, on va parler de vous puisque le but de cette émission, c'est de parler des protestants, surtout quand ils se cachent derrière les autres ou derrière leur travail, parce que c'est quand même impressionnant. Mais en plus, donc, vous êtes chercheur en cancérologie. Alors, chercheur ou chercheuse, je ne sais pas. J'ai vu sur le site que c'était marqué chercheur, donc j'ai lu chercheur. Concrètement, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites?
Alors, concrètement, je travaille dans le domaine de la biologie cellulaire. Et je travaille sur des protéines, donc des molécules qui sont impliquées dans le cancer. Et le quotidien du travail de chercheur, en fait, je dirais que c'est un travail à la fois passionnant et un travail de fourmi. Et en fait, je pense que souvent, les personnes qui ne sont pas dans le domaine de la recherche ont du mal à s'imaginer en quoi consiste le travail de chercheur.
Ben c'est pour ça que vous êtes là, vous allez nous expliquer.
Voilà, dans la pratique, je dirais que c'est un travail de fourmi, c'est-à-dire que tous les chercheurs font des découvertes qui sont de petites découvertes et qui s'ajoutent aux découvertes de leurs confrères et de leurs consoeurs, et c'est le cumul de tous ces travaux qui aboutit en fait aux grandes découvertes.
Et cancérologie générale ou vous êtes plus sur un type de cancer, sur plusieurs types de cancers?
Alors je travaille plus particulièrement sur le cancer du sein, mais dans l'équipe de recherche dans laquelle je travaille, il y a aussi d'autres modèles de cancer qui sont étudiés.
D'accord. Et toutes ces découvertes, enfin toutes ces recherches que vous faites, elle donne lieu à des modifications des traitements rapidement, parce que vous parlez de travail de fourmi, on a bien compris, mais est-ce que c'est aussi un travail à longue haleine? C'est-à-dire, est-ce qu'on voit quand même assez vite les résultats ou est-ce qu'il faut attendre très longtemps avant de déboucher sur des thérapies
Oui, alors c'est un travail de longue haleine. Dans le cadre de mon travail, c'est plutôt de la recherche fondamentale, ça n'est pas de la recherche appliquée. Donc on essaie de déchiffrer les mécanismes qui font que les cellules deviennent cancéreuses et ces travaux peuvent aboutir à de nouvelles stratégies thérapeutiques, mais cela, ça prend des années. Mais c'est un travail qui est nécessaire de faire pour pouvoir ensuite mettre au point de nouvelles thérapies.
Et alors bon, là on comprend bien le fonctionnement du travail, mais je voudrais vous interroger sur les relations que vous pouvez avoir en étant croyante, pratiquante, très engagée dans un milieu scientifique. Est-ce que le milieu scientifique, les collègues, est-ce qu'ils sont au courant de votre engagement ou pas?
Oui, ils sont au courant et ils sont tout à fait ouverts et toujours prêts à en discuter. Je pense que pour eux, c'est un peu une curiosité parce que ils sont en majorité athées.
Oui.
Donc c'est un peu une curiosité, je pense.
Et alors, est-ce que vous leur apportez des éléments pour modifier leur vision? Parce que je suppose qu'en étant athée, ils ont une vision des religions ce qu'on voit à la télé, le pape, ou alors les protestants d'Amérique du Nord, très évangéliques et très parfois bornés. Est-ce que vous pouvez, soit en discutant, soit par votre présence simplement, est-ce qu'ils se rendent compte que le protestantisme, c'est pas quelque chose de simple, c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup. Est-ce que ça se manifeste quelque part ou pas?
Oui, peut-être dans les échanges qu'on peut avoir sur des sujets de fond. Mais c'est difficile de répondre à cette question parce que ça concerne plus leur perception que la mienne, je pense.
Il faudrait les interroger alors. Mais enfin, il n'y a pas de réaction je pense que vous êtes tous au même niveau aussi. Ils peuvent pas dire, comme on entend, hein, quand on est chrétien, on entend souvent des gens vous dire, ah, mais tout ça, c'est des conneries. Quand on est un peu intelligent, on croit plus dans ces stupidités-là. Là, on peut pas vous dire ça.
Non, pas du tout. Mais je pense qu'une des caractéristiques du milieu de la recherche, c'est une ouverture d'esprit.
Ouais.
Donc, il n'y a pas du tout ce genre de jugement, je dirais. Ouais. Vraiment pas.
D'accord. Donc, c'est pas pénible. C'est pas
Pas du tout.
Pas des relations pénibles. Alors maintenant, on va en venir à la musique, parce que la musique, ça prend de la place aussi chez vous. On l'a compris. Tous ceux qui vous ont écouté au temple ont loué la qualité de votre jeu. Et donc, je suppose que vous y passez du temps aussi à la musique.
Ben merci beaucoup pour ces compliments. Oui, j'y passe du temps. C'est un vrai plaisir et depuis très longtemps. Et je suis très contente d'accompagner des cultes au piano ou à l'orgue. Enfin, pour moi, la musique, c'est une dimension importante du culte et j'y suis vraiment sensible.
Oui, mais c'est plus que ça. Vous ne faites pas que jouer au culte. Vous êtes une musicienne. Vous pouvez dire un peu ce que vous, le niveau. Enfin, vous pouvez un peu expliquer aux auditeurs votre niveau, ce que vous faites en musique.
Oui, alors j'ai fait des études de piano au Conservatoire de Versailles. J'ai été en section musique-études quand j'étais au collège. Et par la suite, quand je suis venue à Montpellier pour mes études, j'ai été aussi étudiante au Conservatoire de Montpellier, donc cette fois-ci en composition. Et puis là, je suis encore au Conservatoire de Montpellier dans l'orchestre qui s'intitule Orchestre Amateur. Donc j'ai toujours fait de la musique et pour moi, c'est un grand plaisir.
Mais vous arrivez vraiment à faire tout ça, c'est une sacrée organisation, il faudra nous donner des recettes. On va faire une émission sur comment en faire autant que Marion, et puis arriver à garder le sourire, et parce que moi je suis quand même très impressionnée. On a vu beaucoup de choses, mais il y a encore autre chose, parce que à chaque fois qu'on discute, on découvre d'autres engagements. Alors, vous êtes aussi engagée personnellement dans les relations avec les catholiques. Et ben, vous pouvez nous expliquer aussi cet engagement ?
Oui, alors peut-être que ce que vous venez de dire est plus large que ce que je fais en réalité. Donc, dans la pratique, mon mari est catholique et nous avons à cœur de vivre l'écuménisme au quotidien et nous allons ensemble alternativement au culte et à la messe. Et pour moi, l'écuménisme, c'est vraiment une ouverture et une façon d'approfondir ma foi, en fait. C'est, voilà, une ouverture à autre chose et ça permet d'approfondir les réflexions. Et ensemble, nous avons fait partie du groupe Théovie, qui s'est réuni pendant de longues années au secteur des Garrigues de la paroisse à Sépuma. Et c'était aussi vraiment un enrichissement. Donc on utilisait les documents du site internet Théovie, pour lesquels je suis contente de faire de la publicité, parce que je pense que c'est vraiment une ressource très très importante et très riche de notre Église, et pas que de notre Église d'ailleurs. Et voilà, pour nous, c'était un enrichissement, vraiment.
Alors, vous pouvez parler très rapidement de Théovie, et puis on reviendra sur l'œcuménisme. Comment on le trouve ? Il suffit de taper théovie.org sur l'ordinateur, ça doit être quelque chose comme ça.
Oui, 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 tout à fait.
Ou faire une recherche Google.
Oui, c'est ça. Donc, en fait, le site de Théovie regroupe un grand nombre de ressources. Donc, il y a des dossiers thématiques, il y a un certain nombre de dossiers sur des livres bibliques, mais pas seulement. Et il faut souligner qu'il y a un pasteur, Thibaut de la Ruelle, qui assure le service Théovie et qui, en fait, répond aux questions que les internautes peuvent se poser sur les différents documents qui sont sur le site et qui peut proposer aussi des animations ou de l'aide pour des groupes locaux qui voudraient se développer.
Oui, parce qu'il y a encore des groupes Théovie.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a des groupes dans toute la France.
Oui, oui,
ouais, tout à fait. Et dans le cas du groupe de Jacou, c'était, je pense, une vraie richesse et c'était un groupe qui regroupait catholiques et protestants au niveau du centre écuménique de Jacou, où il y a donc à la fois un secteur de la Sépuma, mais aussi une paroisse catholique. Et c'était vraiment des échanges très riches.
Et alors, qu'est-ce que vous y trouvez dans les relations œcuméniques ? En tant que protestante, qu'est-ce que la relation avec les catholiques vous apporte ?
Alors, je pense qu'en fait, c'est une invitation à approfondir ma foi. Et donc, par rapport à l'éducation protestante que j'ai reçue, c'est une ouverture parce que ça questionne de discuter avec des chrétiens qui ont une façon différente de croire. Donc c'est une incitation à approfondir sa foi et je pense que c'est un dialogue très riche tant que on ne cherche pas à savoir qui a raison. Et à mon avis, la question n'est vraiment pas de se poser. Il s'agit vraiment pas de savoir si l'une ou l'autre confession a raison ou tort sur tel ou tel point. C'est juste comprendre comment les autres vivent leur foi et donc être incité à approfondir sa propre foi.
Et votre mari, est-ce que vous savez ce que lui trouve dans le protestantisme alors qu'il est catholique? Est-ce que vous en parlez des fois, je suppose que vous en parlez entre vous, est-ce que vous savez ce qu'il trouve?
Alors, c'est difficile de répondre à sa place, mais je crois qu'il apprécie beaucoup l'étude approfondie des textes bibliques. Notamment, on participe aux études bibliques qui ont lieu dans la paroisse depuis plusieurs années. Et je pense que oui, voilà, il apprécie cette attention particulière, en fait, à l'interprétation des textes bibliques qui est peut-être, alors il faut bien sûr parler de cela avec beaucoup de précaution, mais qui est peut-être moins fréquente dans l'Église catholique.
C'est tout à fait possible, en tout cas du souvenir que j'en ai, puisque moi j'ai eu une éducation catholique, du souvenir que j'en ai. Mais bon, ça remonte aussi à un certain temps. Alors je ne peux pas parler de ce que je ne connais plus. Et sur les thèmes sociaux, comment ça se passe? Parce qu'il y a quand même une très grande différence entre la vision de certains aspects sociaux chez les catholiques et chez les protestants. En tout cas, du côté de la hiérarchie, du côté des paroissiens catholiques, c'est peut-être différent. Mais par exemple, sur la question de l'ordination des femmes, sur la question des mariages, du mariage pour tous, sur la question de l'avortement et même de la contraception, comment on peut être d'accord? Alors, peut-être qu'il y a une différence, parce que moi je l'ai constaté souvent, entre ce que dit le pape et les évêques et puis ce que vivent les gens. Est-ce que c'est un peu la même chose ou comment ça se passe?
Bah oui, je pense que vous avez raison. Je pense que il peut y avoir une différence entre certaines convictions, ou peut-être pas des convictions, mais des principes affichés par l'Église et puis ensuite les convictions personnelles des membres de l'Église. Je pense que c'est possible.
Mais ils le disent. Les catholiques que vous fréquentez, ils disent qu'ils sont pas d'accord avec certains points de doctrine ou de choses comme ça. Parce que pour un protestant, c'est pas difficile de dire qu'on n'est pas d'accord avec une décision de l'EPUDF. C'est pas un problème de dire, moi je trouve que ça va pas. Mais chez les catholiques.
Oui, ils le disent aussi, oui. Je pense que c'est pas du tout un problème de le dire. Ouais.
D'accord. Ouais. Et tout ça, ça débouche sur quoi? Alors, ces relations œcuméniques, donc une meilleure compréhension de chacun, un approfondissement personnel au niveau de la foi et sur la visibilité du christianisme. Est-ce que ça débouche? Bon, vous avez parlé de ce groupe à Jacou. Est-ce qu'il y a des autres choses qui sortent des autres projets, des autres choses?
Oui, alors je pense qu'il y a des initiatives œcuméniques et je pense qu'elles sont toujours à développer. Donc, par exemple, il y a des études bibliques œcuméniques qui se font à Montpellier. Il y a aussi à l'IPT cette année le cours public dont nous avons parlé tout à l'heure, qui est organisé en partenariat avec le Centre d'études Guillaume de Gélonne, donc le Centre d'études catholiques, avec des intervenants catholiques et des intervenants protestants dans ce cours public. Donc je pense qu'il y a des initiatives œcuméniques et je pense qu'elles sont bien sûr à encourager.
D'accord. Et avec les autres courants protestants, les courants plus évangéliques, il n'y a pas de relation catholique, protestant et évangélique. Ça ne se fait pas. Vous avez essayé, il n'y a pas eu de ou pas du tout?
Alors, je pense qu'il doit y avoir des choses qui se font, mais je ne suis pas très au courant.
D'accord. Pas dans ces groupes œcuméniques.
Pas à ma connaissance, mais peut-être que c'est le cas, en fait.
D'accord.
Je ne saurais pas bien répondre à votre question, je suis désolée.
Bon, mais c'est pas grave, hein. On peut très bien avoir des questions dont on ne sait pas répondre, surtout que, comme les auditeurs ont dû s'en rendre compte, on ne prépare pas une liste de questions que je donne à la personne en disant « travaille dessus » et puis voilà. Donc, c'est du spontané, même si on se connaît et qu'on... On prépare un peu les interventions pour savoir quand même de quoi on parle. Alors, merci Marion Beilon, et puis merci à tous nos auditeurs que nous retrouverons la semaine prochaine à la même heure. Alors, toujours, je fais toujours un appel. Vos réactions, s'il vous plaît, ça nous ferait vraiment plaisir, même si c'est simplement « Ah, j'ai écouté, c'était bien » ou « Ah, j'ai écouté, c'était pas bien ». À ce moment-là, il vaut mieux argumenter un peu, ça fera plaisir. Sinon, ça fait un choc. Mais bon, mais dites-nous ce que vous en pensez, parce que ça serait vraiment bien d'avoir une forme de miroir. Alors, un protestant peut en cacher un autre @radiofmplus.org. Cette adresse, elle sert aussi pour l'autre émission qui s'appelle Thème et Anathème. Si on a des réactions, les envoyer à un protestant peut en cacher un autre. Tout attaché, caché ER évidemment, @radiofmplus.org. Je répète, un protestant peut en cacher un autre, @radiofmplus.org. Merci et à la semaine prochaine.
Protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.